Alors voilà, bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à ceux qui sont de l'autre côté d'un écran. Aujourd'hui, nous allons parler de Lessing. C'est donc la cinquième leçon, le cinquième portrait philosophique du Christ. Nous sommes le 17 mars. Donc dans cette série, nous avons trois Allemands. Nous avons eu Kant la fois passée, nous avons Lessing cette fois-ci, et nous aurons Hegel, donc qui est le grand représentant de l'idéalisme allemand. Et vous voyez peut-être déjà sur votre feuille de route que le septième point, c'est en route vers l'idéalisme allemand. Ne vous mettez peut-être pas juste au milieu parce que vous n'allez pas me voir. Père Jorge, vous n'allez pas me voir si vous vous mettez là, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez... voilà. Alors, Lessing, qui est Lessing? Lessing n'est pas vraiment un philosophe, c'est un littéraire, c'est un dramaturge. Vous avez les dates de naissance là-bas, 1729, 1781. Vous voyez donc qu'il est né 5 ans après Kant, mais Kant a vécu 80 ans, tandis que celui-ci, eh bien, a vécu beaucoup moins longtemps, 52 ans. Il est mort en 1781, ça veut dire, eh bien, quand Kant publie sa critique de la raison pure. Ça veut dire, au fond, quand Kant commence sa carrière philosophique. Donc, il ne connaît pas vraiment Kant. Hein. Bien sûr, Kant était déjà professeur à Königsberg, mais surtout professeur de mathématiques, d'astronomie. Il faisait un peu de philosophie, mais sa grande première œuvre, c'est la critique de la raison pure, 1781. Eh bien, c'est la mort de Lessing. Mais pourtant, Lessing, ce dramaturge, a toujours été intéressé, et peut-être même que c'est son intérêt majeur, c'est la philosophie et la théologie. La philosophie et la théologie. Alors, sa biographie d'abord. Premier point, je vous ai indiqué, et ça me semble important, sur la feuille de route, son amitié avec quelqu'un qui est né la même année que lui, Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn, qui lui n'a pas vécu beaucoup plus longtemps que lui, 5 ans de plus que lui, et qui est le grand-père du fameux compositeur, et de sa sœur d'ailleurs, Fanny, qui était aussi compositrice, Fanny Mendelssohn. Donc c'est le grand-père de ces deux compositeurs, c'est une famille juive, et ce Moses Mendelssohn est donc... un juif qui vit un peu, comme tous les juifs à cette époque-là, dans une culture fermée, dans les ghettos, etc. Mais lui, justement, il veut ouvrir les ghettos. Il veut entrer dans la culture du pays, il veut parler la langue du pays, il veut communiquer avec les gens qui sont des intellectuels autour de lui. Et c'est ainsi qu'il se lie d'amitié dès l'âge de 25 ans, ils ont tous les deux 25 ans, Moses Mendelssohn et Lessing. se connaissent à l'âge de 25 ans. Alors ce Moses Mendelssohn, dans l'histoire du peuple juif, a une certaine importance parce qu'il est l'initiateur de la Haskalah. La Haskalah, c'est aussi sur votre feuille de route. Ça veut dire l'intelligence, l'illumination. C'est au fond quelqu'un qui veut faire entrer la culture juive dans l'ère des Lumières, dans l'ère de la philosophie, dans l'ère de la modernité de l'époque. La Haskalah. Donc c'est un mouvement très très important dans la culture juive. Progressivement d'ailleurs, les juifs vont prendre de plus en plus part à la vie culturelle, mais à cette époque-là, ils étaient apatrides. Apatrides. Tous les juifs étaient apatrides. Ils n'avaient pas le droit de posséder la terre. Ils avaient pour ça des métiers libéraux, etc. Et vous savez grâce à qui les juifs ont commencé à acquérir une nationalité? Grâce à Napoléon. Parce que Napoléon a imposé dans tous les pays qu'il avait sous sa main, eh bien, tout un droit, le code napoléonien, évidemment, et il voulait que tous les habitants aient une nationalité, et donc il a accordé la nationalité aux Juifs. Pour la première fois, grâce à Napoléon, les Juifs ont acquis une nationalité. Avant, ils étaient apatrides, partout où ils étaient. Bon, les gens, à cette époque-là, n'avaient pas évidemment de carte d'identité, il n'y avait pas de... on n'était pas fiché comme aujourd'hui, mais de toute façon, on avait quand même une nationalité. Alors, donc, il commence un peu à ouvrir la culture juive à tout cela, à l'intérêt pour la culture, la politique de son pays, et il a traduit en allemand le Pentateuque. Donc la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, il les a traduits en allemand, en bel allemand. C'est pour ça qu'il est ami d'un littérateur. Il aime bien la langue allemande. Au fond, c'est un peu comme Luther, hein, qui traduit la Bible en allemand. Eh bien, voilà, lui, comme juif, traduit le Pentateuque à sa manière. Bien sûr, il connaît très bien l'hébreu en allemand. Et je crois qu'il initie un mouvement de traduction des écrits juifs dans la langue allemande. Donc, dès l'âge de 25 ans, Lessing, intéressé par la théologie, par la philosophie, eh bien, a un ami juif. Et ils se suivront toute leur vie. Hein. Il y aura une correspondance, des rencontres, tout ce que vous voulez. Donc, cette présence est très importante. Alors, ce qui est très intéressant avec Lessing, qui est donc un dramaturge et qui publie donc des drames, qui écrit de la littérature, qui est un critique littéraire en vue, hein, malgré son jeune âge, eh bien, il est nommé directeur d'une bibliothèque célèbre, Wolfenbüttel. À Wolfenbüttel, 60 km au sud-est de Hanovre, Wolfenbüttel est une petite ville qui a une belle bibliothèque. Il en est le directeur parce que c'est un homme de prestige. Et en 1768, il y a un certain Reimarus qui décède. Qui est Reimarus? Donc je vous ai indiqué cette date là-bas, 1694-1768. Reimarus est un professeur d'hébreu à Hambourg. Il enseigne l'hébreu, il connaît la Bible très très bien. C'est un théologien, un exégète, Reimarus. Et il a beaucoup de doutes sur la Bible, sur ce que raconte la Bible. Est-ce que ces textes sont vraiment d'époque? Est-ce que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque? Est-ce qu'ils ont passé la mer Rouge? Est-ce que le Christ a vraiment été celui que les évangiles racontent, etc. Reimarus, professeur donc de théologie, d'exégèse, qui connaît parfaitement l'hébreu aussi, eh bien, a écrit un livre, mais qu'il ne veut pas publier, parce qu'il a peur de le publier. Parce que c'est un livre un peu iconoclaste, qui fait tendre vers l'incroyance, etc. Et donc, à l'époque, il y a une censure universitaire, et donc les professeurs doivent être croyants, en tout cas ne pas attaquer la religion. Et donc, il ne publie pas. Et à sa mort, ses enfants vont à Wolfenbüttel et offrent les écrits de leur père au directeur de la bibliothèque qui est Lessing. Alors Lessing, il lit ça, il est très intéressé évidemment, il met ça dans les rayons de la bibliothèque, et puis il se dit quand même, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ça rencontre vraiment mes intérêts, ça rencontre beaucoup des questions que je me pose. Qu'est-ce que je vais faire avec ce volume de Reimarus? C'est pas à moi. Eh bien, le petit malin, il publie des fragments de cette œuvre de Reimarus. Alors je vous ai indiqué ici, il publie sous l'anonymat, ça veut dire qu'il dit, j'ai découvert par hasard dans la bibliothèque un bouquin qui n'est pas signé, et je publie un fragment. Et puis je publie un autre, et puis un autre. Voilà. En 1774, il publie un fragment qui s'appelle « De la tolérance des déistes ». Les déistes, donc, qui croient à l'existence d'un Dieu, mais peut-être pas vraiment à la religion révélée. En 77, il publie 5 autres fragments. Alors souvent, ces fragments, il les publie en disant que c'est un anonyme, alors qu'il le connaît, évidemment, qu'il l'a trouvé par hasard dans sa bibliothèque, c'est lui qui l'y avait mis. Et il met quand même à côté des contre-propositions, parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord non plus avec Reimarus. Il trouve que Reimarus va trop loin dans sa critique. Mais lui, il est quand même d'accord en partie, donc il fait des Gegensätze, des contre-propositions. Et voilà les titres donc des autres fragments. Le deuxième, c'est « La raison décriée dans les chaires universitaires ». Donc c'est Reimarus qui se plaint qu'on vérifie son orthodoxie et que la raison n'a pas sa place, même parmi les professeurs d'université. Impossibilité d'une révélation que tous les hommes pourraient croire d'une manière fondée. Critique de toute révélation possible. Le passage des Israélites à travers la mer Rouge. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte là-dedans, mais probablement qu'il explique hein, ce qu'on vous a déjà raconté plusieurs fois, que bon, ben justement, il y avait, je ne sais pas, une marée basse, et puis un vent qui soufflait, et puis je ne sais pas quoi, et que passer à pied sec, ce n'était pas très difficile à cette époque-là de l'année, ou de je ne sais pas quel siècle. Que les livres de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits pour révéler une religion. Alors ça, c'est intéressant. Hein. L'Ancien Testament a été écrit parce que ce sont les livres d'histoire d'un peuple qui traverse les âges, mais le but n'est pas vraiment la religion. Le but, c'est l'organisation du peuple, c'est le droit. Vous savez qu'il y a beaucoup de droits dans la Bible, il y a beaucoup de sagesse et tout ça. Eh bien, ce sont des livres culturels. Là, un peu dans la ligne de Spinoza, dans son traité théologico-politique, ben, il explique aussi que la Bible, c'est un code de droit qui a formé un peuple, qui a constitué une tradition culturelle, juridique, politique, etc. Sur l'histoire de la résurrection. Alors, je vous parlerai davantage de ce petit fragment, mais donc, il ne croit pas à la résurrection. Hein. Les disciples ont volé le corps de Jésus. Pourquoi ? Eh bien, il va vous le dire. Et enfin, le fragment peut-être le plus important, le but de Jésus et de ses disciples, qui est peut-être différent. Le but de Jésus, c'est une chose, le but de ses disciples, c'est une autre. On va voir. Il pose aussi la question de l'eschatologie johannique. Alors ça, c'est une question fort intéressante, encore actuelle, parce que regardez par exemple ce livre, hein, « Die Johannische Eschatologie » en allemand, l'eschatologie de Saint Jean. Alors l'eschatologie, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se passera tout à la fin, les fins dernières. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer après la mort, après la fin du monde, etc. L'eschatologie johannique. Eh bien, quand on compare, comme le faisait Reimarus à longueur de cours, hein, les synoptiques, avec tous leurs discours eschatologiques et que le monde va s'effondrer, les étoiles vont tomber du ciel et tout ça, et puis qu'on voit l'eschatologie de Saint Jean, c'est très différent. Très différent. Saint Jean, bon, eh bien, je vous ai mis là un verset de Saint Jean, Jean 17, 3. Saint Jean parle souvent de la vie éternelle. 17 occurrences de la vie éternelle. He aionios zoe. Eh bien, la vie éternelle, c'est quoi? Voici le dernier verset donc, où il en parle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ son Fils, qu'il a envoyé. Donc c'est ça la vie éternelle. Et plusieurs fois dans les discours avec Nicodème, dans les discours sur l'Eucharistie, etc., il explique que la vie éternelle, ben, c'est présent, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, hein? C'est d'être en lien avec la foi, etc. Alors on s'est posé la question, mais est-ce que Saint Jean, finalement, il croit à la vie future? Bien, la vie éternelle, c'est maintenant. Alors on met les choses ensemble en disant, mais non, la vie éternelle commence maintenant, et puis après, il y aura la vie future. Mais Reimarus trouve que ça, c'est dire ce que Saint Jean dit, et puis dire ce que les synoptiques disent, mais que ça ne va pas ensemble. Il faut choisir. La vie éternelle, c'est maintenant, connaître Dieu maintenant, ou bien c'est après la mort, mais mettre les deux ensemble... Voilà, c'est un peu un rationaliste, je dirais, pas très spéculatif. Hein. C'est un professeur philologue d'hébreu, tout ça, il veut vraiment que le texte, la lettre du texte. Voilà, donc, question, est-ce que la vie éternelle existe? Est-ce que Saint Jean ne nous dit pas que la vie éternelle, c'est maintenant et point final, hein? Donc voilà des questions que Reimarus se met sur le tapis et que Lessing, eh bien, de manière un peu subtile, vous voyez, hein, il a presque 50 ans, il n'aura plus beaucoup de temps à vivre, hein, il ne le sait pas bien sûr, mais il publie un peu comme un faussaire, hein, ses fragments, pas tous, mais il fait quand même des contre-propositions, mais tout en cédant un peu du terrain, parce qu'il trouve ceci. Il trouve que il y a une espèce d'idolâtrie protestante de la Bible. La Bible lue à la lettre, hein, la Bible où on croit tous que tout ce qui est dit vraiment, il y a le joug intolérable de la lettre de la Bible, et il faut être plus malin que ça, il faut lire la lettre, mais découvrir l'esprit. Alors on vous dira, oui mais attention, parce que si on attaque la lettre, alors les choses vont s'effondrer, hein, alors la religion va à volo. Eh bien, Lessing dit, ben, si la religion est si solide que ça, il faut pouvoir lui faire toutes les objections qu'on a envie de lui faire, et elle répondra. Et si elle ne répond pas, tant pis pour elle. Mais il faut avoir le courage de mettre sur le tapis les vraies objections. Et Reimarus en met une série, eh bien, examinons ces objections. Et voyons si nous pouvons y répondre de manière philosophique ou de manière théologique, peu importe. Mais ce n'est pas en empêchant les gens de faire des objections à la Bible qu'on la défend. Il faut la défendre en laissant les objections venir et en les affrontant. Et Reimarus, eh bien, se propose comme l'adversaire idéal dans cette apologie de la religion. Alors, selon Reimarus, Jésus, eh bien, se prenait pour le Messie juif attendu. Bon, ça, nous sommes presque d'accord, mais vraiment dans l'idée du messianisme politique et terrestre. Hein. Selon lui, Jésus a vraiment cru qu'il était le Messie terrestre, le roi à venir. Et bon, il y a le secret messianique chez saint Marc, il y a différentes choses qui montrent que Jésus s'en défend, mais d'après lui, il s'en défend, mais il ne s'en défend pas tellement bien. Hein. Et surtout, les disciples ensuite ont dit qu'il s'en défendait parce qu'il a raté. Hein. Jésus a raté. Donc, il voulait être ce Messie juif politique. Mais échec, donc déception aussi des disciples. Les disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, hein? Ils étaient les sectataires donc de Jésus, et voilà que tout est par terre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils changent de plan. Ils changent de plan, ils vont quand même essayer de rattraper la sauce. Hein? Ils vont dire que ben, Jésus est ressuscité. Donc on va voler son corps, on va faire circuler cette nouvelle, et puis on va essayer quand même hein, de faire un grand parti politique, religieux, etc., qui va un peu sauver l'idéal que eux avaient, que les disciples avaient. Et selon lui, eh bien, voilà, les disciples surtout ont écrit le Nouveau Testament, et ils ont transformé l'image de Jésus. Jésus n'est pas celui que nous donnent à voir les synoptiques, et saint Jean encore moins. Alors, saint Jean, selon Reimarus, eh bien, lui a vécu plus longtemps que les autres, et donc plus longtemps il a attendu hein, ce règne politique qui n'arrivait pas. Il a eu plus le temps de voir que la fin du monde non plus n'arrivait pas, et donc, bon, ben, il a écrit un évangile plus tardif, comme on sait, que les synoptiques, et où la vie éternelle, ben, c'est la vie présente, quoi. Avec une certaine intensité, avec une certaine force de rencontre avec Dieu, etc. Mais c'est la vie présente. Au-delà, personne ne sait rien. Hein. Voilà, la vie éternelle, c'est maintenant connaître Dieu. Alors, selon Reimarus, c'est une tromperie. Tout ça, c'est une tromperie. Hein. Alors, bien sûr, quand Lessing commence à publier ses fragments, eh ben, ça fait un tollé partout, on commence à en discuter. Bon, il est très content, évidemment, hein, d'avoir lancé une polémique, ça lui permet d'écrire, de réfuter, de répondre, etc. Et il y a un certain Zemmler, vous avez aussi son nom, pas sur la feuille de route, mais sur la feuille chronologique là, derrière. Hein, vous voyez les dates d'une série de protagonistes, une dizaine là. Vous avez Reimarus et Zemmler au-dessus, eh bien ce sont deux théologiens exégètes. Et Zemmler lit hein, les objections de Reimarus, mais au lieu d'interpréter ça avec une tromperie, avec l'idée de la tromperie, il l'interprète avec l'idée de l'accommodation. Voilà, en effet, les disciples ont été déçus, et ils ont accommodé hein, le message de Jésus, mais ils n'ont pas voulu tromper, ils n'ont trompé personne. Peut-être même que, eh bien... Jésus s'attendait à cela, hein, et qu'il attendait de ses disciples qu'ils comprennent à la longue hein, toutes ces affaires, et qu'ils écrivent finalement ben, les évangiles tels qu'ils sont là, et les lettres de saint Paul, etc. Donc lui, ce n'est pas la tromperie malveillante, mais c'est l'accommodation. Hein. Voilà, les disciples ont accommodé le message tel qu'ils l'ont compris, parce que Jésus est le Fils de Dieu, tandis que les disciples ben, sont des pauvres hommes qui ont essayé de comprendre comme ils ont pu. Donc voilà, il l'atténue, hein, la thèse de Reimarus. Alors, est-ce que la Bible est inspirée? Est-ce que la Bible, finalement, est un livre culturel, Ancien et Nouveau Testament compris, ou est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu ? Question qu'on peut se poser. Hein. La Bible, dit-on, est inspirée par Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors on admet que, bien sûr, il y a eu des écrivains humains, mais qui ont quand même travaillé, peut-être pas sous la dictée de l'Esprit-Saint, mais disons inspirés par Dieu. Inspirés par Dieu pour réécrire l'histoire et insuffler, voilà, bien un message vraiment révélé, qui vient de Dieu, qui n'est pas de l'homme, hein, qui est révélé. Lessing a longtemps travaillé la question de la formation du canon des Écritures. Alors vous connaissez peut-être cette question du canon des Écritures. La Bible donc chrétienne est composée d'une série de livres, autant ni plus ni moins. C'est ça l'Ancien Testament, c'est ça le Nouveau Testament. On ne peut pas ajouter d'autres trucs ou enlever un livre en disant ben, « celui-là n'est pas intéressant ». Non, il y a un canon, comme on dit. Le canon, ça veut dire une règle, une mesure, c'est canonique. Alors ce canon des Écritures, bon, il s'est formé petit à petit, petit à petit. Les écrits circulaient, bon, alors on a dit, bon, mais on prend cet évangile ou on ne le prend pas, oui, il a l'air sérieux, enfin, il correspond vraiment au message de Jésus, Saint Paul aussi, hein, il y a peut-être d'autres personnes qui ont écrit des lettres, hein, il y en a d'ailleurs, hein, d'autres, mais qui sont considérés comme des pères apostoliques, par exemple, hein, Ignace d'Antioche, pourquoi est-ce qu'Ignace d'Antioche n'est pas dans le Nouveau Testament, hein, pourquoi, etc. Eh bien non, on a fait des choix, et ça a été... Assez lent, assez rapide, ça dépend comment on considère les choses, mais donc on a exclu ce qu'on appelle les apocryphes. Par exemple, j'ai ici hein, l'évangile selon Thomas. Voilà. L'évangile selon Thomas. Il y a d'autres évangiles qui circulent, hein. vous pouvez les lire, ils sont sur le marché, et ils vous racontent en effet des choses que Jésus aurait dites, des choses qu'il aurait faites. Hein. Mais il y a une série d'évangiles qu'on appelle apocryphes, donc qui ont été écartés. Comme ne portant pas vraiment le message profond et le plus religieux donc, de Jésus, mais donnant des détails intéressants au niveau historique, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on considère aujourd'hui. Autrefois, on disait non, c'est des apocryphes, c'est mauvais, hein, il faut les écarter, les faire disparaître. Maintenant, on dit non, non, ils peuvent être là à côté des autres, ils n'ont pas du tout la même valeur, mais si vous voulez les lire, vous pouvez les lire. Si vous les lisez, si jamais vous les lisez, ben, vous verrez assez vite... Dans certains cas, pourquoi on les a écartés hein? Parce qu'on y raconte des histoires qui ne collent pas très bien avec votre image de Jésus, sans doute, ou la mienne. Mais donc, il a beaucoup étudié le canon de l'Écriture en se demandant pourquoi hein, on a pris un livre plutôt qu'un autre, comment on a reconnu qu'un livre est inspiré et pas un autre. Comment on a reconnu ça? Alors, en étudiant l'Ancien Testament, il s'est dit, tiens, mais Moïse, il ne parle jamais de l'immortalité de l'âme. Il ne parle jamais de la vie future. Pourquoi ? Il n'en savait rien. Dieu ne lui avait pas inspiré cette révélation. Ou bien est-ce qu'il n'osait pas en parler parce que les gens n'auraient pas compris ? Bon, il se pose cette question. Alors Moïse est venu vraiment apporter le monothéisme. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est une nouveauté, c'est une révélation. Ou c'est un progrès humain. C'est l'un ou l'autre. On n'en sait rien. En tout cas, selon Lessing, l'exil est capital. L'exil, donc les Juifs ont été déportés hein, à Babylone, etc. Et là, ils ont eu des contacts avec les Perses. Ce n'est pas eux qui les ont déportés directement, mais ils ont eu des contacts avec eux, qui eux croyaient à l'immortalité de l'âme, qui eux croyaient à la vie future. Et c'est en revenant de l'exil qu'ils ont intégré ça dans leur Bible. Et qu'ils ont fait un progrès, mais un progrès qu'ils avaient pris, non pas, pas entendu de Dieu directement, mais d'un autre peuple. Alors vous voyez, chaque fois qu'une idée, le monothéisme par exemple, ou l'immortalité de l'âme ou la vie future, émerge dans un livre biblique, eh bien en effet, on peut le considérer comme une révélation. Mais on peut le considérer aussi comme une idée humaine, qui tout à coup, eh bien, quelqu'un en avance sur son temps, a découvert et expose aux autres qui n'y croient pas trop, mais à force d'argumenter, etc., eh bien les autres finissent par le croire. Ils finissent par adhérer à cette idée. Mais donc, les gens qui ont écrit la Bible, selon lui, finalement, ce sont des gens qui c'est des penseurs qui sont en avance sur leur temps et qui découvrent des choses ben, qu'on pouvait découvrir par soi-même et que eux ont découvert parce qu'ils étaient plus intelligents, inspirés par Dieu peut-être, mais inspirés au sens pas que Dieu vient leur souffler à l'oreille une idée qu'ils n'ont jamais eue, mais au sens où Dieu les a aidés à avoir des choses qui sont évidentes, quoi, hein, avoir des choses que la raison peut dégager. Mais ça va plus vite, hein, lorsqu'on a quelqu'un qui est un peu en avance sur son temps et qui découvre les choses. Et c'est ce qu'il appelle la théopneustie. La théopneustie, eh bien, vous reconnaissez pneuma, hein, souffler, Dieu souffle sur certains, non pas pour leur dire, hein, littéralement telle et telle chose, mais pour leur donner des idées en avance sur son temps. Et peut-être que Jésus lui-même a été simplement un homme comme ça, en avance sur son temps. Il y en a toujours, hein, qui sont en avance sur leur temps et que les autres ne croient pas. Et puis des années après, ben, on les croit et même tout le monde dit ben, comment on n'y a pas pensé plus tôt, quoi, hein. Jésus lui-même se présente peut-être comme quelqu'un de très en avance sur son temps et il s'est rendu compte qu'il était inspiré par Dieu et la meilleure façon de le dire, ben, c'est de dire que je suis le Fils de Dieu. Voilà, hein. Mais peut-être ni plus ni moins qu'un génie, un génie dans d'autres domaines, eh bien c'est un génie religieux qui découvre des choses, qui affirme bien sûr l'immortalité de l'âme, c'est très important selon les Sikhs, et qui est un meilleur pédagogue que les autres, hein, qui explique mieux que les autres, ça c'est une idée aussi de Spinoza, hein, vous vous souvenez, il est le summus philosophus non seulement parce qu'il a la vraie doctrine, mais parce qu'il sait l'expliquer aux ignorants. Ce que Spinoza n'était pas capable de faire, Jésus est capable de le faire dans des paraboles très simples. Il explique des choses très compliquées. Et c'est pourquoi il est le suprême philosophe. Par exemple, malgré tout, Jésus est encore trop lié à l'idée de punition et de récompense. Il y a quand même des paraboles là, hein, où on parle de faut faire fructifier ses talents, sinon, eh bien, gare à vous, etc. Là, il n'est pas encore suffisamment développé dans son idée religieuse. Il faut qu'un jour, l'homme fasse le bien pour le bien lui-même. Pas parce qu'il va être puni ou récompensé, mais pour le bien lui-même. Idée très ancienne, comme vous savez, mais Kant n'a pas encore écrit sa critique de la raison pratique. Voilà, aucun prédécesseur du Christ n'avait inspiré une telle confiance. Mais les Sikhs n'osent pas se prononcer pour dire que vraiment il était le Fils de Dieu, il était un homme en avance sur son temps. Hein. Il ne sait pas répondre à beaucoup de questions concernant le Christ, l'identité du Christ. Et selon lui, là il dépend un petit peu de Reimarus, hein, eh bien il destinait sa doctrine aux Juifs seulement, pas au monde entier. Voilà, les Sikhs rejettent aussi la théorie de la Trinité, la filiation divine. Alors il a été tenté un moment par l'arianisme. Alors vous voyez ce que c'est l'arianisme, c'est la doctrine d'Arius, hein, qui dit que Jésus est un homme comme les autres, mais que finalement, eh bien, il a été plus ou moins divinisé, hein, par Dieu, qu'il est devenu le Fils de Dieu, entre guillemets. Hein. Et à l'arianisme se joint souvent l'adoptionnisme. À un moment donné de sa vie, Jésus a été adopté comme Fils de Dieu, par exemple au baptême, hein, ou à la transfiguration, ou à la résurrection, enfin voilà, il y a différentes théories adoptionnistes. Et donc, voilà, les Sikhs est plutôt unitarien, si on veut, hein, unitarien, pas trinitariste. Alors, par parenthèse, aujourd'hui, unitarien. Par parenthèse, dans l'anglicanisme, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont très unitariens. Hein. Il y a beaucoup de théologiens anglicans qui résorbent très fort la Trinité dans un unitarisme. Le lien avec Joachim de Flore. Joachim de Flore, qui est-il ? Eh bien, il est un moine calabrais qui avait eu l'idée, j'ai mis ses dates là-bas, hein, c'est donc le 12e siècle, qui avait eu l'idée qu'il y avait, lui, il croit à la Trinité, mais d'une certaine manière, hein, ça veut dire que l'Ancien Testament, c'est le règne du Père. Le règne du Père. Vient Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et qui inaugure un nouveau règne, le règne du Fils. Voilà, le règne du Père, le règne du Fils. Et bien sûr, on attend le règne de l'Esprit. Hein? Un jour viendra le règne de l'Esprit-Saint, et qui ira encore plus loin que ce qu'a dit le Christ, et nous serons dans le troisième âge, dans la troisième ère, Et alors nous entendrons donc l'évangile éternel, hein, pas l'évangile de Jésus-Christ, mais l'évangile éternel qui sera, bon ben c'est un peu difficile à dire ce qu'il sera, mais il vient avec Joachim de Flore, il vient. Eh bien, Lessing reprend un peu cette idée en disant, ben le troisième règne c'est l'ère de la raison. Voilà, hein, le Père, le Fils, bon d'accord, mais surtout, eh bien l'ère de la raison, quand la religion sera entièrement raisonnable. Naturel, raisonnable. Mais quand même, les doctrines de Jésus sont intéressantes parce qu'elles ont donné une nouvelle impulsion à la raison humaine. Il était venu avec des idées en avant sur son temps et le dogme de la Trinité, même s'il n'y a pas de Trinité, le dogme de la Trinité est très intéressant parce que ça provoque l'esprit à la réflexion. Ça met dans l'esprit l'idée que Dieu n'est pas aussi simple à comprendre que cela. Le monothéisme, c'est pas monolithique. Hein. Il y a une vie en Dieu, il y a quelque chose en Dieu. Quoi ? On n'en sait rien, mais on l'illustre parfaitement avec l'idée de la Trinité, selon lui. Et donc, ça exige un effort de réflexion. Ça relance l'humanité dans un effort exceptionnel pour comprendre qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la vie, hein, terrestre. Voilà donc la Trinité, la doctrine de la Trinité est une invitation à ne pas se faire une idée trop simpliste de Dieu, mais à réfléchir sur qui est Dieu vraiment et quel est son rapport avec l'humanité. Et l'idée d'un Dieu qui engendre un fils de toute éternité, est une magnifique image, hein, pour expliquer voilà, cette complexité de Dieu que nous ne devons pas trop imaginer comme trinitaire, selon lui. Alors, il raconte cela dans... il explique cela dans ce texte qui s'appelle « De l'éducation du genre humain ».« L'éducation du genre humain », voilà... En allemand, hein, Die Erziehung des Menschengeschlechts. Vous avez une page avec des extraits. Je l'ai mise dans votre petit package là. Vous voyez là que ça se divise en paragraphes. Hein. Il a voulu faire un petit peu comme Spinoza, mais comme il est moins géomètre que lui, bon, il n'a pas fait des théorèmes et des corollaires, il a fait simplement des paragraphes, et il y a juste 100 paragraphes. Donc l'éducation du genre humain, c'est juste 100 paragraphes. Et ça commence, on va lire le texte, vous l'avez sous les yeux, donc, paragraphe 1, « La révélation est au genre humain ce que l'éducation est à l'individu. » Un professeur éduque son élève en lui disant progressivement hein, des vérités qu'il est capable de comprendre, mais quand il est petit, il ne comprend pas tout, quand il est grandi, il comprend un peu plus. Donc, il faut l'éduquer hein, en lui révélant petit à petit certaines vérités, certaines belles choses de la raison, eh bien la révélation religieuse, c'est la même chose par rapport à toute l'humanité. Dieu éduque le genre humain en lui révélant des choses. L'éducation est la forme de révélation qui est donnée à l'individu. À l'inverse, la révélation est la forme d'éducation qui est donnée au genre humain. Alors, paragraphe 4, à l'individu, l'éducation ne donne rien qu'il n'aurait pu tirer de lui-même. Mais ce qu'il aurait pu tirer de son propre fond, elle le lui donne plus vite et sans d'aussi grands efforts. Donc vous vous souvenez par exemple avec Socrate hein, qui montre qu'un esclave qui ne connaît rien parvient à découvrir le théorème de l'hypoténuse. Il suffit qu'il soit bien guidé, hein, qu'on lui dise « regarde ceci, regarde cela, c'est égal à quoi, etc. » Et donc il découvre quelque chose parce qu'il est guidé. Mais il le tire de son propre fond. Socrate ne lui souffle pas la réponse, mais il le guide par une méthode. Eh bien, au fond, la révélation religieuse est cela, pour le genre humain. Le genre humain doit atteindre, à une raison, hein, à un règne de la raison totale, et petit à petit, eh bien, Dieu, par la révélation, lui fait aller un peu plus vite, hein, lui fait éviter des erreurs, et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Parce qu'au paragraphe 8, vous voyez que, comme Dieu ne pouvait ni ne voulait plus se révéler à chaque homme en particulier, il s'est choisi un peuple particulier. Il ne pouvait pas faire à chaque homme la même chose. Hein. Donc il choisit un peuple particulier, il choisit un peuple le plus grossier, le plus farouche. Il a pris le moins bon élève de la classe, hein, pour que tout le monde comprenne. Hein. Donc il a pris le peuple le plus grossier, le plus farouche, le plus mal dégrossi en allemand, pour pouvoir ainsi reprendre à la base son œuvre d'éducation de toute l'humanité. Paragraphe 11. À ce peuple grossier, Dieu apparut au début sous les apparences d'un dieu de ses ancêtres pour le familiariser tout d'abord avec l'idée d'un dieu lui appartenant en propre. Voilà, donc il éduque le genre humain. Et vers le paragraphe 50, eh bien, on va passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Voilà, je lis la fin du paragraphe 51. Voilà, non, commençons au début du paragraphe 51. « Mais un livre élémentaire, comme on a à l'école primaire, ne convient qu'à un âge déterminé. C'est nuire à un enfant que vouloir lui imposer ce livre après qu'il ait dépassé cet âge. Il faut lui donner un meilleur livre. » Donc, plus longtemps que l'auteur n'avait prévu. En effet, pour le rendre tant soit peu utile, on est obligé d'introduire, si on se limite à ce livre élémentaire, d'introduire plus de choses qu'il n'y en a. Hein, si on veut enseigner des choses difficiles avec un livre facile, alors, bon, il faut un peu inventer, quoi. Hein. On y introduit plus qu'il ne peut contenir. Et on est alors obligé de rechercher, de multiplier les allusions, les indications. Il faudra vider les allégories de leur contenu jusqu'à la dernière miette, donner des apologues, des interprétations trop compliquées, pressurer les mots pour extraire plus de sens qu'ils n'en ont. Ah ben ça, c'est les juifs qui font ça, les rabbins. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les rabbins? Ils prennent l'écriture, ils pressurent dans tous les mots et ils finissent par tirer de ces quelques mots des choses extraordinaires, mais qui n'y étaient pas, quoi, hein. Mais par ces moyens, malheureusement, il parle avec son ami juif, hein, Mendelssohn, hein, donc, par ces moyens, on rendra l'esprit de l'enfant mesquin, oblique, vétilleux. Il deviendra dissimulé, superstitieux, plein de mépris pour tout ce qui est simple et clair. Voilà. Mais c'était un peu l'idée de Mendelssohn aussi, hein. Il fallait que la culture juive, enfin, arrive à quelque chose de plus simple, de plus clair, de plus commun avec le reste de l'humanité. C'est ainsi justement que les rabbins ont traité leur livre saint, en exagérant les interprétations contournées, etc. C'est le caractère qu'ils ont imprimé à l'esprit de leur peuple. Ils ont tellement fait ça avec leur livre que c'est passé dans leur esprit, hein, un esprit contourné comme ça. 53, très important ce paragraphe, il faut que vienne un meilleur pédagogue qui arrache des mains de l'enfant le livre élémentaire dont le contenu est épuisé. Et ce meilleur pédagogue, ce fut le Christ. Ce fut le Christ, hein, qui arracha des mains du peuple juif l'Ancien Testament pour lui donner un livre meilleur. Et c'est ainsi qu'on passe au deuxième grand stade de l'éducation, fin du paragraphe 54. Hein, fin du paragraphe 55, l'enfant devient un jeune homme, Knab. Voilà, on passe à un stade ultérieur, c'est l'éducation du genre humain. Voilà. Nathan le sage, on lira ça un peu plus tard. Et vous voyez donc que l'idée des trois âges de Joachim de Flore est devenue l'idée de l'Ancien Nouveau Testament et l'âge de la raison chez Lessing. Il reprend un peu cela. Alors, tout à la fin, je l'ai mis sur votre feuille de route, tout à la fin de cette éducation du genre humain, à la grande surprise de ses amis rationalistes, voilà que Lessing propose de substituer à la doctrine révélée par la foi la métempsychose. La métempsychose, le retour des âmes sur terre. Ainsi, les hommes arrivent par paliers successifs vers le sommet. Alors, vous savez que c'est une époque où on découvre les autres cultures, hein, où on lit en hébreu, en sanskrit, en perse et tout ça. Tous ces Allemands travaillent ces textes. Hein. Eh bien, voilà. Dès le moment où Lessing renonçait à l'eschatologie chrétienne, il lui fallait trouver une solution de remplacement. Et sa solution, c'est la métempsychose. Alors, il ne développe pas beaucoup, hein, il développe pas beaucoup, mais il développe de manière littéraire, hein, suggestive, mais ça reste assez vague malgré tout. Hein. Quand on est un théologien, un philosophe comme Brito, on trouve que cette solution est vraiment maigrelette, hein, par rapport aux critiques qui ont peut-être quelque chose de valable, hein, sur l'eschatologie johannique et tout ça. Bon, il y a quelque chose à retirer de tout cela. Mais, voilà, la solution de rechange tient en 3-4 paragraphes, et je vous lis la dans la finale de cette éducation du genre humain, au paragraphe 99. On fait l'objection, oui, mais vous êtes revenu là pour la 14e fois sur la Terre, vous ne vous souvenez pas des vies antérieures, donc qu'il n'y a pas eu de vie antérieure. Mais non, pas du tout. Ce qu'il est nécessaire d'oublier pour le présent, je ne l'ai peut-être pas oublié pour l'éternité. Mais dans ma mémoire présente, oui, ces 13 vies antérieures, je les ai oubliées. Mais dans l'éternité, je m'en souviens. Chaque fois que je passe de l'autre côté, je dis maintenant 13, 14, 15, etc. Et je me souviens de tout. Et puis je reviens et je recommence. Mais ce n'est pas nécessaire d'accumuler dans le présent, soi-disant, cette mémoire des vies antérieures. Ou bien ce moyen me ferait-il perdre trop de temps? Objection, il faudra beaucoup de temps pour que tout le monde soit parfait. Mais n'ai-je pas devant moi toute l'éternité? Voilà. Bon, il répond un petit peu comme ça de manière littéraire. Bon, ce n'est pas très fondé. Mais c'est vrai que, voilà, il avait, à cet âge-là, pris la piste de la métempsychose. Nathan le Sage, c'est une pièce de 1779 que l'on joue encore. Je l'ai vue ici il y a quelques années au théâtre de la Monnaie. D'ailleurs, parmi les spectateurs, il y avait Éric-Emmanuel Schmitt avec toute une bande d'amis, probablement des écrivains, etc. Cette pièce de théâtre met en scène les rapports entre la religion naturelle, raisonnable, et les religions positives, révélées donc. Elle s'inspire en partie des dialogues de Lessing avec son ami Moses Mendelssohn. Alors, la parabole de l'anneau, qui se trouve à l'intérieur de cette pièce, de cette œuvre théâtrale, est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la philosophie des Lumières et comme l'expression la plus poignante de l'idée de tolérance. L'idée de tolérance des religions. Alors, je vous ai mis justement ici la question de la parabole de l'anneau, qu'on va relire rapidement. Mais d'abord, intéressant de constater que le grand-père paternel de Lessing était déjà un théologien. Et 110 ans avant cette pièce, il avait fait sa thèse à Leipzig sur « Die Duldung der Religionen », la tolérance des religions entre elles. Donc c'était un peu dans les gènes de Lessing, son grand-père. Donc vous voyez que c'est un homme cultivé, un homme qui vient d'une famille cultivée. Son père avait déjà une thèse en théologie. 110 ans avant, il avait fait une thèse là-dessus. Voici l'argument de la pièce, qui se situe en 1187, à Jérusalem. Donc toute la pièce, Nathan le Sage. Voilà, Nathan le Sage. Nathan, comme vous savez, c'est le prophète qui découvre à David son péché, en lui racontant une parabole, justement, en lui racontant une parabole, la parabole de l'homme riche qui va prendre la brebis du pauvre pour un invité qui passe. Eh bien, l'argument de la pièce se situe en 1187, qui est le moment où Saladin reprend Jérusalem. En 1187, il y a déjà eu deux croisades. Les chrétiens se sont réinstallés à Jérusalem, les templiers veillent au grain sur place. Mais voilà que Saladin, donc un musulman, vient reprendre la ville, et c'est ce qui enclenchera la troisième croisade. La croisade avec Richard Cœur de Lion, qui rencontrera d'ailleurs Saladin. Et donc ce Saladin, qui est-il? Salah al-Din, il est originaire d'une famille kurde, donc qui vient de ce côté-là, Assyrie, par là. Et il fait des conquêtes et progressivement, il est à la tête de l'Égypte et de la Syrie. Et il conquiert Jérusalem en 1187. Victorieux, alors ça c'est bien historique, victorieux, c'est dans la pièce, mais c'est assez historique. Il agit vis-à-vis des juifs et des chrétiens dans un esprit de tolérance assez inconnu jusqu'alors. Ce Saladin était un homme, un gentleman, qui, semble-t-il, a bien sûr massacré quelques personnes, mais aussi et avait une certaine considération pour les juifs et pour les chrétiens. Dans la pièce, seuls les templiers qui tuent en invoquant Dieu ne trouvent pas grâce à ses yeux. Alors vous savez que les Templiers, c'était en effet un ordre assez, assez spécial, hein, puisqu'il y avait des prêtres soldats dans cet ordre, des soldats qui étaient prêtres, qui allaient au combat, et qui parfois, bon ben, enfin, qui tuaient évidemment au combat, et qui parfois étaient tués au combat. Hein. Donc dans la grande bataille de Grunewald, ça c'est beaucoup plus tard, en 1410, il y a eu 3000 prêtres qui ont été tués, hein, dans cette bataille de Grunewald. Ça c'est en Pologne, la Lituanie, tout ça, bon, c'est une autre affaire, mais donc les Templiers étaient un ordre sacerdotal, guerrier. Alors dans la pièce, voilà justement, les Templiers ne trouvent pas grâce aux yeux de Saladin, mais fait inouï, Saladin vient d'épargner un Templier, un jeune homme. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme erre dans la ville mélancolique, et puis tout à coup, il sauve des flammes une jeune fille juive. Alors Saladin, musulman, voit ce Templier chrétien sauver une fille juive, il dit, tiens, ce Templier, eh bien, il est plus ouvert que les autres. Hein? C'est un acte hors norme pour un Templier. Le père de cette jeune fille, riche marchand, revient d'un long voyage, et puis la folle journée peut enfin commencer dans la pièce, et il imagine donc la rencontre de ce musulman, apôtre de la tolérance, avec un juif sympathique, le père de la jeune fille, et ce chrétien, Templier, qui vient de sauver donc la fille du marchand juif. Cette pièce a bousculé beaucoup de conceptions de l'époque, et peut-être encore de la nôtre. Hein. Et donc c'est la question de la religion unique, qui s'est éventuellement fragmentée en judaïsme, christianisme, islam, etc. Et quelle est la vraie religion ? Quelle est la vraie religion ? Eh bien, voilà, on va lire le texte que je vous ai mis là, rapidement. Vous l'avez peut-être lu. Je vous ai envoyé le texte hier pour faire votre lecture du soir. Attends, c'est pas la bonne feuille. C'est écrit un peu petit, mais il fallait bien que je mette tout sur une feuille. Il y a des siècles de cela, raconte Nathan, en Orient, vivait un homme qui possédait un anneau. Donc c'est une parabole qu'il raconte à Saladin. Un anneau d'une valeur inestimable, don d'une main chère. La pierre en était une opale où se jouaient mille belles couleurs. Et cette pierre, cet anneau, avait le secret pouvoir de rendre agréable à Dieu. Angenehm. Rendre agréable à Dieu et aux hommes. Angenehm, vous vous souvenez que Kant parlait de l'homme agréable à Dieu en utilisant Wohlgefällig. Donc quiconque possédait cet anneau, eh bien, était rendu agréable à Dieu et aux hommes. Quoi d'étonnant si l'Oriental la gardait constamment au doigt et prit la décision de la conserver éternellement dans sa famille. Voici ce qu'il fit, il légua l'anneau au plus aimé de ses fils. Et comme ça, de génération en génération, hein, le père qui a reçu le fils qui a reçu cet anneau, le lègue à son fils, à son tour, sans considération de naissance. Ça veut dire que ce soit l'aîné ou le second, le troisième, il le donne à son fils le plus aimé. Vous voyez que là, déjà, il y a l'histoire de la chronologie. Hein? Judaïsme, christianisme, islam, bon, il y a une chronologie. Et les trois fils, hein, qui seront sans doute représentés dans le reste de la parabole, ce sont les trois religions qui naissent à des époques différentes. Et voilà, de père en fils, cet anneau est légué. Jusqu'au moment où il y a un père qui a trois fils qu'il aime autant l'un que l'autre. Et puis quand il est en dialogue personnel avec chacun des trois, eh bien il trouve que celui-là est vraiment le plus aimable et lui promet l'anneau. Il lui raconte l'histoire et il lui promet l'anneau. Donc il a promis l'anneau à tous les trois. Aïe, que va-t-il faire, hein? Donc ainsi le père meurt. Et il avait été, donc, il s'était rendu coupable d'une pieuse miséricorde ou affection pour chacun de ses fils. Hein? Alors, que va-t-il faire ? Eh bien, avant de mourir, il se dit, je vais faire deux anneaux exactement semblables au premier. Et chacun aura un anneau. Et chacun croira qu'il a le vrai anneau. Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, à la mort du père, eh bien, chacun des fils vient en disant « Ah, c'est moi qui ai reçu l'anneau ». Puis ils se rendent compte qu'ils disent tous les trois la même chose, puis ils se disputent. Alors que cet anneau avait le don de rendre agréable à Dieu et aux hommes, ils se disputent. Alors que font-ils? Ben, ils vont chez un juge et ce juge leur dit, eh bien, que va-t-il se passer? Au fond, le juge leur dit, j'entends dire que le vrai anneau possède la vertu magique d'attirer l'amour, de rendre agréable à Dieu et aux hommes. Eh bien, allez-y, faites la preuve que vous avez reçu le vrai anneau, hein, l'anneau véritable. Celui qui a l'anneau véritable, c'est celui qui a le plus d'amour, hein, pour ses deux frères et pour tout le monde, et donc qui sera agréable à chacun. Ce que chacun aime le mieux, c'est simplement soi-même, si vous vous disputez. Si vous vous aimez vraiment l'un l'autre, eh bien vous montrez que vous avez l'anneau. Alors rivalisez d'amour entre vous, afin que l'on sache qui a le vrai anneau. Ou bien alors ils sont tous les trois faux. Hein? Si vous vous disputez, ils sont tous les trois faux. Il n'y en a pas un de vrai. Et s'il y en a un de vrai, eh bien chacun peut l'avoir, s'il veut être plus aimant que ses frères. Que chacun de vous s'efforce à l'envie de manifester dans son anneau le pouvoir de la pierre. Qu'il seconde ce pouvoir, je suis tout à la fin du texte, par sa douceur, sa tolérance, sa cordialité, ses bienfaits, sa soumission profonde à Dieu, et qu'ensuite les vertus de la pierre se manifesteront chez les enfants de vos enfants de vos enfants, alors je vous convoque dans 1000 fois 1000 ans pour tirer la conclusion. Qui aura, eh bien, eu la génération de fils les plus aimants. Voilà, allez, hein, et faites la preuve que vous avez reçu l'anneau. Donc c'est cette pièce, hein, qui a fait beaucoup de, disons, d'adeptes, hein, en disant, voilà, la vraie religion, ben, finalement, c'est celle qui rend l'homme le meilleur pour Dieu et pour les autres hommes. Et nous n'avons pas à nous disputer, nous avons à, eh bien, chacun suivre notre religion le mieux possible et rivaliser non pas en tuant les autres, mais en les aimant et en montrant par là que nous sommes dans la vraie religion. Lessing et Spinoza placent de l'histoire dans la découverte de la vérité en route vers l'idéalisme allemand. Alors je vous invite à prendre le tableau ici, c'est un petit tableau qui m'a demandé un certain temps pour le fabriquer, hein, non seulement au niveau graphique, mais aussi au niveau réflexion, lesquels est-ce que j'allais choisir, et puis comment les qualifier chacun, comment les grouper. Alors vous voyez que j'ai groupé tout au-dessus, c'est plus ou moins par ordre chronologique, de naissance, à part une inversion. Au début, vous avez Reimarus et Zemmler, qui sont deux exégètes, deux professeurs d'exégèse. L'un qui défend la thèse de la tromperie, hein, dont les disciples ont déformé le message du Christ, et tandis que Zemmler, eh bien, il adoucit sa thèse en disant que c'est une accommodation, hein, du message de Jésus à la réalité, finalement, et que finalement, il n'y a pas de tromperie, c'est peut-être comme ça que ça devait se passer. Kant, j'en ai parlé. Kant, donc, pour lui, c'est la raison. Hein. La religion doit se réduire à son noyau de raison pratique, pas théorique, hein, pratique, et donc doit se réduire, finalement, au message de l'amour, du respect de l'autre, hein, l'impératif catégorique qui se monnaie dans toutes sortes de maximes, hein, qui par exemple dit, eh bien, ne considère jamais l'autre comme un moyen mais toujours comme une fin en soi, ou bien fais en sorte que la maxime que tu utilises dans ton action puisse être érigée en norme universelle pour tous. Si tu dis moi je fais ça mais ce serait une catastrophe si tout le monde le faisait, eh bien, c'est que ce n'est pas une bonne loi morale. Donc voilà, c'est la raison pour Kant. Mais donc Lessing n'a pas connu Kant dans sa phase philosophique vraiment importante. Lessing se pose la question, c'est la raison ou c'est l'histoire? Est-ce que la révélation historique nous apporte quelque chose de neuf? Ou bien simplement met au jour, hein, ce que la raison nous aurait fait découvrir peut-être plus... avec plus de difficultés, plus d'errements et plus de tromperies, etc. Mais finalement, on l'aurait découvert. La révélation, l'histoire, les vérités historiques révélées, eh bien, et les vérités éternelles, bon, c'est pas la même chose, hein. Il faut finalement aller aux vérités éternelles. Un peu l'idée de Spinoza. Hein. Spinoza aussi a une conception très, très maigrelette, hein, de l'histoire. Tout sub specie eternitatis. Hein. Et ça, c'est une belle, vraie, grande question que l'idéalisme allemand va très bien traiter. Est-ce que les vérités, mais même mathématiques, etc., hein, même les vérités les plus éternelles, est-ce qu'elles ont à faire avec le temps et l'histoire et les événements et les contingences et les singularités de personnes? Ou est-ce qu'elles sont au ciel des idées là et que finalement, bon, ben, il n'y a pas besoin d'histoire pour que ces vérités tiennent? Ou est-ce que les vérités sont découvertes à travers une histoire? Alors, ce n'est pas Einstein qui a créé la relativité, mais c'est quand même lui qui l'a découverte. Et cette découverte à travers cet homme-là fait que cette vérité a pris cette tournure-là aujourd'hui. Et peut-être qu'il faudra la corriger plus tard, etc. Mais voilà, pour nous, c'est une vérité ou une hypothèse scientifique, etc. Mais qui a à voir avec l'histoire, avec la contingence, hein, des événements. Même chose en religion. Est-ce que le fait que Jésus soit apparu dans le peuple d'Israël à un moment donné de l'histoire avec l'Empire romain, etc., je ne vais pas dire transforme cette vérité, mais lui donne une forme, lui donne un dynamisme, lui donne une coloration qui n'en fait pas une idée qui n'est pas éternelle, mais qui rend cette idée éternelle singulière, humaine. Hein. Il y a quelque chose de, disons, de constant, mais il y a toujours un habillement, il y a toujours, et qui fait partie peut-être de cette vérité. Hein. C'est ça la question. J'ai mis Mendelssohn avec Lessing parce que ce sont deux amis. J'ai mis la question des fragments, des Gegensätze, voilà. Bon, alors Hamann et Herder. Hamann et Herder, ce sont deux personnages qui sont très importants parce qu'ils s'opposent justement à l'idée que les vérités éternelles n'ont pas besoin d'histoire. Alors ceux qui ont suivi le cours d'anthropologie, la légèreté de l'homme, eh bien, pour le langage, j'ai parlé du langage conception grecque et du langage conception hébraïque, hein, vous vous souvenez. Eh bien, Hamann et Herder sont vraiment des penseurs de la conception hébraïque de la langue. Hein. Pour Hamann, qui est un peu un personnage, le mage du Nord, on l'appelait un peu fou comme ça, il s'oppose complètement à Kant. Il a écrit une... comment est-ce que ça va ? Une métacritique du purisme de la raison pure. Alors, si vous n'avez pas compris que c'était contre Kant, hein, donc critique de la raison pure, dit Kant, ben lui écrit une métacritique du purisme de la raison pure. Hein. Voilà, c'était un homme complètement opposé à Kant. De même, Herder, qui pourtant était un ami, un élève, un disciple de Kant, mais à ce moment, il s'est séparé de lui. Et ce sont deux hommes qui sont complètement imprégnés de l'étude de l'hébreu. Ah, j'ai oublié de prendre ce beau livre, dommage, de Herder. Hein, comme je ne sais plus comment c'est, Initiation à la poésie du peuple hébreu, ou je ne sais pas quoi, un gros bouquin, où il travaille tous les textes de la Bible en montrant les nuances en hébreu. Hein. C'était à ce moment-là difficile de bien connaître l'hébreu, mais il y a des gens comme ça qui passaient leur vie à l'étudier, et qui montrent que la religion... judaïque, mais le christianisme ensuite, eh bien, est complètement emmembré dans une langue, dans une culture, dans une histoire. On ne peut pas tout à coup, soi-disant, détacher hein, une vérité hors de cette histoire et dire on n'a pas besoin de cette histoire. C'est comme si on disait on prend une pensée, mais cette pensée n'appartient à aucun corps, à aucune intelligence, à aucune langue, à rien du tout. Alors, où est-ce qu'elle est, cette pensée ? Donc ce sont des gens qui sont complètement opposés à l'idée de Kant, mais d'autres aussi, hein, qui a moyen d'extraire la vérité de tout ce qui la communique, hein, de toute l'histoire, de tous les événements, de toute la langue. Hein. On ne peut penser que dans une langue, hein, ou avec une langue, ou plusieurs langues, mais il n'y a pas moyen de penser sans langue. Et la langue influence la pensée et inversement. Et il faut en être bien conscient. Et la pensée, ça fait partie de cette vie, de ce corps social, historique, hein, qui traverse le temps à travers des hommes singuliers, hein, qui ont telle et telle manie ou tel et tel génie, etc. Donc c'est l'insistance pour que la pensée ne soit pas détachée, hein, de son corps, la pensée détachée de la lettre. Et voilà, ce sont des pensées qui mettent en avant la poésie, hein, qui mettent en avant la beauté de la grammaire, etc. Fichte, alors après, vous avez les trois grands idéalistes allemands, Fichte, Schelling et Hegel. Fichte, Schelling et Hegel, et j'ai mis Schleiermacher entre parenthèses, parce que lui est plus un théologien. Mais vous voyez qu'ils sont à peu près nés en même temps, hein, ces hommes, ils sont nés à peu près en même temps, et ils défendent à peu près tous, hein, je dirais, des idées autour de la même question. Autour de la même question. Est-ce que la raison et l'histoire, ce sont des gens qui ont bien pris conscience de l'importance de l'histoire, hein, tous, mais est-ce qu'on peut détacher la pensée de l'histoire, et donc Dieu aussi, de l'histoire, hein? Alors Fichte est encore assez fort dans un rationalisme, dans un idéalisme subjectif, comme on dit. C'est pas seulement la raison, c'est le sujet, enfin peu importe. C'est un auteur très difficile, hein? C'est peut-être l'auteur le plus difficile de tous ceux que je présente ici. Schleiermacher, c'est surtout le sentiment, c'est avec le sentiment, hein, qu'on découvre la vérité théologique, hein, religieuse, avec le sentiment. Hegel, qui fera la réconciliation de tout, hein, dira que la raison se donne dans l'histoire, à travers l'histoire. Hein. La raison, la vraie raison, hein, pas une raison à bon marché, la vraie raison, l'esprit absolu, eh bien, se donne à travers les événements historiques contingents, mais qui, cette contingence devient nécessaire à partir du moment où on a découvert ce qu'elle révélait. Et alors Schelling se pose sans cesse la question entre raison et histoire, que faut-il choisir, quel est le plus important, etc. Donc lui est un peu moins synthétique, mais il veut tenir aussi les deux bouts. Hein. On ne peut pas détacher la vérité de l'histoire de la vérité. Tandis que Hegel, comme je vous le montrerai la fois prochaine, eh bien, montre vraiment, à sa manière bien sûr, hein, comment... Eh bien, histoire et raison, et même Dieu dans l'histoire, hein, comment ? Eh bien, ce n'est qu'à travers une histoire que peut émerger une vérité, que la raison se fait à travers un corps, à travers une langue, à travers des personnes concrètes. Voilà, ce petit tableau, donc, nous l'éluciderons davantage la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous, donc, la semaine prochaine pour parler de Hegel.